Europe 1, 11h30, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour
vous
à tous.
Vous êtes dans Bien fait pour vous, votre émission dédiée au bien-être, au mieux vivre. Ici du lundi au vendredi, on vous parle de votre vie quotidienne, comment mieux consommer, mieux gérer votre vie de famille ou même votre boulot. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30.
Alors Mélanie, ce jeudi, on va démarrer en répondant à cette question. Une maison zéro déchet, est-ce que c'est possible? On parlera de notre consommation passant par l'alimentation, l'hygiène, nos loisirs, l'école et même le bureau. On va tout revoir ensemble, on la jouera collectif, tout en faisant en plus des économies. On verra donc comment s'y prendre en pratique chez nous avec Julie Bernier. Elle est militante et l'auteur du livre Zéro déchet, le manuel d'écologie quotidienne chez Solar.
Ensuite, à 11h35, on passera à notre dossier santé du jour, consacré aujourd'hui au lancement du Pasteur Don, événement dont Europe 1 est partenaire et qui permet de partager avec vous l'étendue des recherches menées à l'Institut Pasteur. On évoquera évidemment les progrès du côté des maladies infectieuses, mais aussi du cancer ou des neurosciences, des avancées qui peuvent tous nous concerner un jour. Les chercheurs travaillent d'arrache-pied pour cela, mais ils ont besoin de nous.
Ensuite, dès midi, il y aura la séquence tendance de ce magazine avec chaque jour nos bons plans, nos astuces et de la gastronomie, bien sûr. Ce midi, c'est Margot Grossman qui va nous régaler en premier. Elle va nous faire découvrir le konjac. Mélanie, vous allez adorer ou pas, on verra. Et ensuite, Sophie Braffman viendra fêter un anniversaire avec nous, ce sont les 100 ans du magazine Vogue, une chronique bien glamour en perspective. Et enfin, pour terminer ce tour de table, nous donnerons la parole à Philippine Darblay, notre experte art de vivre, qui va mettre l'accent aujourd'hui sur les nouveaux compléments alimentaires.
Europe 1.
Et bien voilà, bien fait pour vous, c'est parti. Et en ce jeudi 7 octobre, on a décidé de démarrer par cette question, une maison zéro déchet, est-ce que c'est possible sérieusement? Je crois que vous êtes loin du compte, Mélanie, mais un peu comme moi, franchement.
Oui, Julia, je vais pas mentir, mais je ne demande qu'à m'améliorer. Pour cela, je suis vraiment preneuse de conseils. On va voir ça dans un instant. Mais avant, il y a quelqu'un qui a été interroger les gens sur leur façon de consommer, de jeter, de recycler au quotidien chez eux. C'est bien sûr Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Effectivement, une
maison.
Vous
n'avez pas été faire les poubelles quand même, j'espère.
J'ai tout fait. J'ai tout fait.
Vrai.
Journalisme d'investigation. Effectivement, voilà. C'est possible, mais c'est compliqué. J'ai demandé un peu aux Français ce qu'ils en pensaient. Alors, est-ce qu'une maison zéro, mais alors zéro déchet, c'est possible?
Non, je pense que c'est impossible. Moi, j'ai des enfants, je sais pas si vous avez déjà essayé les couches réutilisables, c'est pas pratique, enfin, je vous fais pas un dessin, mais bon. Donc non, je pense pas que la maison zéro déchet, ça existe un jour.
Ouais, non, je pense pas. Par exemple, moi, le matin, je bois du café, et j'ai pas trop le temps, donc le confort de mettre la capsule dans la machine, non, je peux pas m'en passer, là, en vrai.
Quand je regarde la chambre de mes enfants, je me dis qu'il y a un sacré truc à mettre à la poubelle, quand même. Et là, je peux vous dire que ça fait un sacré paquet de déchets. Je parle pas des enfants, hein. Je
parle des jouets.
J'ai cru qu'il allait vous demander, je sais pas si vous avez déjà essayé les enfants.
Évidemment. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué de faire du tri, de se priver un peu de confort, de se dire, le café, oui, je peux le faire moi-même, je peux aller chercher en vrac, je peux faire ça, ça prend une demi-heure. Une capsule, c'est tellement pratique. On nous rend tellement la vie facile que c'est dur. Alors après, il faut aussi trier. J'ai demandé aux enfants, eux, c'est une nouvelle génération, normalement, ils sont plus éduqués que nous.
Oui, je pense que c'est possible. Bon, moi, je préfère le confort d'une vraie maison, quand même.
Ouais, on peut avoir une poubelle jaune, une poubelle rouge, une poubelle verte, une poubelle marron.
Oui, il y en a des poubelles. Hein.
Et ils apprennent, ils connaissent plus que les adultes, justement.
Ça, sûr,
alors,
ouais.
Pour ceux qui ne connaissent pas, chers auditeurs, voici un petit résumé de ce qui va où.
Alors, pour le plastique et les emballages, c'est la poubelle jaune.
Bravo.
Pour le papier, c'est la poubelle bleue. Mm-hmm. Pour les déchets ménagers, c'est vert ou noir. Et parfois, c'est même marron.
Ouais,
et
ouais.
Pour le vert... C'est vert normalement.
Ouais, on sent que c'est pas
la bleue,
complètement
sûr.
La
bleue, je l'ai pas, moi, la bleue.
Voilà.
Daltonien, cet enfant.
Peut-être qu'il s'est trompé, on ne sait pas. Et puis j'ai eu le miracle devant moi, alors que je parlais comme ça. Je suis tombé sur une personne, parce qu'on parle de déchets, qui a son propre compost, en fait, chez lui, qui a quelque chose. Il nous a expliqué pourquoi c'était si bien.
Oui, j'ai réduit d'un tiers mes déchets avec un lombricompost. Donc tout ce qui est organique, que ça soit du carton ou des restes d'un repas, on le met dans le lombricompost et il y a des petits vers qui ne sont pas des vers de terre, c'est assez différent, qui mangent les déchets et qui en font de l'engrais en fait, tout simplement. Tous mes amis se moquent de moi parce qu'ils trouvent ça assez crade, ils ont plus peur de ça que des serpents, je crois. Moi, je les considère comme mes petits animaux de compagnie, je vérifie qu'ils vont bien tous les jours, je remue un peu la terre, je vérifie que tout va bien et tout va bien dans ce lombricompost.
Si vous voulez des petits animaux de compagnie et sauver la planète, ça peut être une solution, on en parlera évidemment tout à l'heure. Et puis puis j'aimerais terminer parce qu'on parlait du vrac, c'est-à-dire aller jeter vraiment des choses sans les emballages directement. Il faut se déplacer, c'est plus long. J'ai été agréablement surpris quand j'ai entendu ça.
Bah moi j'achète tout en vrac. Je sais pas trop si c'est écolo, mais en tout cas c'est pas cher.
C'est pas cher. Je pensais au contraire, moi j'avais une image très très chère et apparemment
vous
de moins en moins.
Vous dites à chaque fois il faut se déplacer. Vous vous déplacez pas pour aller faire vos courses et acheter des trucs emballés, c'est pareil.
Non, je claque des doigts, je livre tout, je commande tout. Non mais parfois c'est plus compliqué parce qu'on a des bocaux, on se dit c'est pas forcément à proximité et c'est le problème. Et j'avais une image très chère de ça et apparemment les prix deviennent de plus en plus abordables parce que tout simplement ça se multiplie. Il y a de plus en plus d'endroits où on peut aller acheter au vrac.
Eh ben merci pour cette enquête.
Elle était pas en vrac, celle-ci, elle était pas en vrac.
Non, vous êtes bien droit, c'est génial. On vous retrouve bien sûr demain avec un nouveau
avec
reportage.
Plaisir. Ouais, je retourne parce que j'ai fait les poubelles, je retourne sous la douche, j'ai laissé couler l'eau.
D'accord. Non, c'est pas vrai. Bon, quelle horreur. Et la lumière allumée.
Mais évidemment,
merci pour votre bonne humeur. Tout de suite, il est temps de présenter notre invité pour répondre concrètement à notre question du jour. C'est vous, Julie Bernier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes militante et l'autrice du livre Zéro déchet, le manuel d'écologie quotidien aux éditions Solar. Alors, quand on parle de déchets quotidiens, déjà, ça correspond à quoi ? Est-ce que ce sont seulement nos poubelles, par exemple ?
C'est d'abord nos poubelles, donc vraiment ce que vous allez mettre à la fois dans la poubelle ménagère et les poubelles de tri, et même tout ce qui est ce que le monsieur compostait.
Ouais.
Ça fait partie des chiffres qu'on a. En général, ça représente pour chaque habitant environ un peu plus de 350 kilos de déchets par personne par an.
Par français, quoi, c'est ça ?
Par français, par an. Ouais. Et donc, ça veut dire pratiquement un kilo de déchets par jour par personne. C'est énorme.
Mais c'est énorme, oui.
Et attendez, ça ne s'arrête pas là, malheureusement. Si on ajoute les déchets, les meubles qu'on va mettre à la déchetterie et autres, on arrive à 590 kilos de déchets par personne par an.
C'est énorme.
Et si j'ajoutais à chaque tête, à chaque habitant, tous les déchets de la France, le BTP, les déchets médicaux qui sont plus ou moins essentiels, médicaux essentiels évidemment, on arriverait à plus de 13 tonnes de déchets par habitant.
C'est incroyable. Comment se situe justement nous les Français par rapport à d'autres pays ? Est-ce qu'on a mesuré le nombre de tonnes par Suédois ou par une autre nationalité ?
Alors oui, la plupart des pays occidentaux sont aussi les plus pollueurs. Mais là, on touche à un autre sujet, c'est que c'est pas forcément le volume de déchets qui va importer dans cette question, mais plutôt la nature du déchet, puisque produire du papier n'a pas le même impact sur l'environnement que de fabriquer un ordinateur portable ou autre. Donc il n'y a pas seulement le poids.
Alors justement, on va refaire un petit cours parce qu'on a parfois du mal à saisir le lien entre la quantité de nos déchets et l'épuisement de nos ressources. C'est lié, mais est-ce que vous pouvez nous réexpliquer de quelle façon ?
Alors, quand on mesure le poids d'un déchet, on parle du sac à dos écologique. C'est-à-dire que c'est toutes les ressources qui ont été utilisées pour extraire les premières ressources avant fabrication, fabriquer le produit, transporter le produit, utiliser le produit et puis, in fine, lui donner une fin de vie. Et là, ça monte très très haut. Donc, une simple brosse à dents de quelques grammes peut peser jusqu'à 1,5 kg de ressources.
Ah oui.
Un ordinateur, là, ça s'envole, c'est 1500 kg de ressources en moyenne. Rien qu'une bague en or, ça peut être 2 tonnes de ressources. Et ça, c'est...
Je me tiens mon doigt. Il faut arrêter d'acheter des bagues en or.
Ce qui est intéressant, c'est que ce dont vous disposez déjà, si vous l'utilisez, si vous l'aimez, gardez-le. L'important, ça va être plutôt de réfléchir à l'avenir.
Ils sont en quoi, vos bijoux, à vos oreilles, là ?
C'est de l'argent.
L'argent, c'est mieux,
je crois.
Ouais,
c'est pas forcément mieux. Non.
Ouais. D'accord. Mais gardez-les longtemps, n'en achetez pas
exactement.
Trop. C'est
surtout
ça. Voilà.
Le premier... Les premiers piliers du zéro déchet, c'est refuser et réduire notre consommation.
Bien sûr.
Encore une fois, ce que vous avez, ne jetez pas la poubelle.
Gardez
nos
bijoux, Julia.
Ce n'est pas la peine de jeter. C'est plutôt à l'avenir, réfléchissons à ce qu'on consomme.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel notre objectif est tout simple chaque jour, que votre vie soit plus facile après nous avoir écoutés. Donc ce matin, on tente ensemble de répondre à cette question. Une maison zéro déchet, est-ce possible ? Sérieusement, on en parle avec vous Julie Bernier, vous êtes militante et l'autrice du livre Zéro déchet, le manuel d'écologie quotidien chez Solar. Alors pour une vie zéro déchet, vous avez établi la règle des 5 R. Ce sont 5 piliers pour réduire la quantité de nos déchets. Alors, quels sont ces 5 R rapidement ?
Ces 5 R, c'est d'abord refuser. Donc, tout ce qui n'est pas utile, dire vraiment...
Refuser d'acheter, quoi. Hein,
refuser d'acheter, exactement. Ou refuser même, ça peut paraître étrange, mais non, ce qu'on va vous donner gratuitement, les petits échantillons, les petits trucs qu'on accumule, qui ne servent à rien et qui ont malgré tout un impact sur nos vies, sur l'environnement. Réduire.
Deuxième R, ouais.
C'est le deuxième R et c'est tout réduire, hein, à la fois ce qu'on achète, mais aussi peut-être dans l'alimentation, certains produits qui vont avoir un impact sur la planète supérieur, les produits animaux, notamment la viande, le poisson, etc. Réutiliser, c'est le troisième R, donc réutiliser ce que l'on a déjà, plutôt que de racheter systématiquement,
de les réparer éventuellement,
du neuf, exactement.
Voilà,
ouais. Réparer, ça pourrait être un autre R.
C'est ça.
Recycler, c'est le quatrième R, et vous voyez qu'il n'arrive qu'au quatrième pilier. Donc le recyclage, c'est vraiment la dernière façon d'être écolo. Avant, il faut d'abord réduire, refuser, réutiliser, réparer.
Et le dernier,
c'est rendre à la terre, parce qu'il fallait un R, mais en gros, ça veut dire composter ses déchets.
C'est ça. Composter, ça commence par un C, ça ne nous arrangeait pas. Mais oui. En fait, ça veut dire la même chose.
Ouais.
Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs là qui sont en train de nous écouter et de faire comme Mélanie et moi et de se dire, oh là là, on est des mauvais élèves, etc. Honnêtement, c'est vraiment beaucoup de contraintes, non, pour tendre vers le zéro déchet ?
Je ne dirais pas que c'est des contraintes, mais c'est un temps un peu long, parce qu'il faut revoir tout ce qu'on a toujours fait au quotidien. Et donc, ça peut paraître une très grosse montagne, mais en fait, un pas par un pas...
C'est notre responsabilité, hein, vous dites, c'est important l'individu dans cette histoire.
C'est important l'individu, et à la fois... Le but n'est pas de culpabiliser l'individu parce que les plus gros pollueurs et les plus grands fabricants de déchets sont avant tout les entreprises. Et si on voulait vraiment tendre le zéro déchet...
C'est ce que disent
déchet,
beaucoup les gens qui ne le font pas eux-mêmes. Hein, ils disent, bah, après tout, c'est pas moi qui pollue le plus. Moi, je serais qu'une petite goutte dans l'océan.
Eh bien, à la fois, c'est vrai, mais et à la fois, je pense que c'est très important d'incarner ce qu'on veut, nos valeurs. Ce serait étrange de dire à quelqu'un, fais ça alors que je ne le fais pas. Et donc, je pense qu'il faut à la fois... incarner ce zéro déchet, la sobriété, le changement sociétal qu'on veut, et à la fois ne pas perdre de vue que l'individu a une responsabilité, mais la société, l'État, les entreprises sont celles qui ont l'impact le plus gros au niveau des déchets et de la pollution.
Alors Julie, on va voir maintenant tous les petits gestes pour avoir une maison zéro déchet, et on va débuter par la cuisine, parce que c'est clairement la pièce où l'on produit le plus de déchets, mais jusqu'à quel point ?
Vous pas trop, vous cuisinez pas trop.
Franchement, moi je suis hyper écolo, grâce à moi, il y a très peu de déchets dans ma cuisine.
Alors il y a effectivement beaucoup de déchets dans la cuisine, des déchets très très simples, souvent à éviter. On parlait du compostage. Effectivement, les déchets organiques, donc qui pourraient finir au compost, représentent un tiers de nos déchets. Donc un peu plus de 110 kilos de déchets par an et par personne.
Et le reste, c'est quoi alors, les déchets de la cuisine ?
Eh bien, ça va être le plastique, des emballages, Bah non, en fait, c'est beaucoup de plastique. Non,
bah ouais,
le carton, des emballages aussi. Voilà. C'est que des emballages, en fait. Tout ça, c'est
mais
vraiment
c'est vrai que
beaucoup d'emballages.
Parfois, je ne sais pas si ça vous fait ça, Mélanie, mais on sort les courses et on met presque plus de temps à défaire les emballages qu'à ranger les produits. Donc, heureusement, il y a le vrac. Hein.
Alors, il y a le vrac.
Ça, c'est une vraie solution pour réduire dans la cuisine.
Absolument, c'est une vraie solution. L'important, ça va être d'utiliser, quand on achète en vrac, des choses qui sont réutilisables. Donc, des petits sachets, par exemple, en tissu plutôt qu'en craft, parce que le craft, c'est aussi du carton qu'on va jeter. Donc pareil, essayer d'utiliser des matières qu'on peut réutiliser.
Vous avez d'ailleurs une petite astuce, je crois, perso, pour fabriquer des sacs de vrac. Expliquez-nous.
Oui, j'ai beaucoup récupéré des petits t-shirts de bébés qui n'étaient plus utilisés. Et en fait, on peut facilement coudre des petits sachets de vrac avec.
C'est trop mignon.
C'est très simple, ça prend 3 minutes. Et du coup, on n'a pas
un côté
acheté
parce que ça coûte
aussi être cher.
Des petites fringues des enfants en plus, c'est
oui,
sympa.
Oui, j'ai des sachets de vrac avec des petits nœuds et des petits cœurs, c'est formidable. et là, pour la consommation, au-delà de réduire ses déchets, on peut aussi décider de changer de consommation en allant vers des circuits courts, aider des producteurs, des circuits de distribution d'aliments biologiques. Donc au-delà de réduire notre empreinte, de réduire nos déchets, on a aussi une empreinte positive sur la société.
Moi, j'aimerais bien qu'on change de pièce un peu, Mélanie. Je me sens pas à l'aise dans la cuisine.
Je suis sûre que vous allez aller dans la salle de bain. Je vous connais un petit peu.
Je vais dans la salle de bain, j'y passe beaucoup de temps. Est-ce que c'est possible d'avoir une salle de bain sans poubelle? Parce que alors là, on remplace par quoi? Mes cotons tiges,
la mienne,
tout
elle est pleine de cotons démaquillants, surtout.
Alors moi, non. Ouais. Moi, j'ai testé un nouveau truc, c'est les cotons. Je sais pas si vous allez nous parler de ça, Julie, les cotons réutilisables.
J'ai plus besoin d'en parler, puisque c'est déjà fait.
C'est quoi des efforts? C'est coton utile. Parce que moi, j'ai des carrés cotons, quoi.
Eh ben, c'est la même chose, mais en version réutilisable, ça peut être fait avec des anciennes serviettes ou du coton, du lin, autre chose.
Et c'est très simple. Moi, je fais ça, je trouve ça super.
On les lave à la machine à laver et c'est tout. On les réutilise.
On les remet dans la salle de bain et on réutilise et on recommence.
Exactement.
Et c'est vachement bien, moi, je trouve. Effectivement. Mais voilà, je vous conseille.
Mais c'est pour ça qu'en fait, je pense que j'ai beaucoup entendu au début de l'émission le mot confort. Confort, ouais. Même venu d'enfants. C'est ça qui est drôle. Hein. On a l'impression qu'on renonce à un confort. En réduisant nos déchets, en étant plus sobre dans nos vies, je ne pense pas. En fait, la plupart des choses, elles sont peut-être étonnantes. Elles bousculent un petit peu notre quotidien au début.
Elles ne sont pas inconfortables.
Elles ne sont pas du tout inconfortables. Ouais. Sinon,
vous avez l'air d'être une fille qui vit dans une vie confortable. Vous êtes rayonnante, franchement.
Mélanie, on ne passerait pas à la chambre, ça m'intéresse.
Je voulais juste un petit mot sur les hommes dans la salle de bain, parce qu'on a parlé de nous qui faisions des déchets les femmes, mais les hommes, ils se rasent aussi. Et vous dites notamment dans votre bouquin que les hommes pourraient se raser sans gel de rasage. Mais pourquoi faire d'ailleurs?
Eh ben, en fait, on peut utiliser, comme à l'époque, là, on n'a rien inventé, il y a encore quelques années, on le faisait, on peut utiliser un blaireau, un petit savon de Marseille, on frotte le blaireau sur le savon de Marseille, on l'utilise, ça fait une sorte de mousse, et après, on peut utiliser, par exemple, plutôt qu'un rasoir jetable, un rasoir de sécurité, pour les femmes aussi, d'ailleurs, pour nous raser, c'est la même chose, le même processus.
C'est beaucoup mieux. Moi, c'est super. Alors voilà, je voulais
changer. Passe à la chambre.
Je passe à la chambre et notamment au dressing. On n'imagine pas forcément l'impact environnemental de l'industrie textile, mais je crois que c'est très très lourd, non ?
Oui, alors c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde. Et ça, c'est notamment dû aux teintures, mais surtout à la fabrication complètement excessive qu'on a. On fabrique plus de 100 milliards de vêtements dans le monde chaque année.
Et ça aussi, c'est en train de changer. Hein.
Oui, mais pas assez vite.
Ouais, pas assez vite. Mais c'est vrai que là, je sais pas comment on peut appeler ça, l'envie de consommer de manière frénétique les vêtements, il faut que ça change.
Exactement. On est vraiment sur une industrie plus prête à porter, prête à jeter. Et donc là, pareil, l'important, c'est de refuser, réduire.
Vous avez un petit schéma dans le bouquin justement pour savoir si je dois conserver ou pas ce vêtement, avec des questions qu'il faut se poser pour trancher lesquelles, grosso modo.
C'est acheter ou non ce vêtement, c'est est-ce que j'en ai déjà un similaire? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai envie de donner du temps pour laver ce vêtement en plus? Est-ce que je ne peux pas lui trouver une alternative qui soit plus écologique, le seconde main par exemple, ou aller vers des entreprises de mode plus responsable.
Et là, y en a, si vous avez tout coché, on est en valeur dans cette émission d'ailleurs, souvent avec Sophie Braffman.
Tout à fait.
Il y en a de plus en plus. Ce qui est juste par contre, c'est que c'est une mode qui coûte plus cher, ce qui est normal puisqu'il y a une meilleure répartition des coûts, on paye mieux les personnes qui fabriquent, etc. Mais ça veut aussi dire qu'on ne peut pas juste transposer notre consommation, garder notre consommation, notre volume de consommation, mais il faut vraiment avant tout réduire, et c'est comme ça qu'on reste dans le budget, voire qu'on fait beaucoup d'économies. Ça a été le cas pour ma part.
Alors je crois que c'est important aussi de choisir ses vêtements en fonction des matières utilisées, et pas forcément de les choisir parce qu'ils nous plaisent à première vue. C'est quoi les matières textiles à privilégier, et celles au contraire qu'il faut absolument éviter?
Alors ce qui est à éviter, c'est beaucoup les dérivés de pétrole. En fait, c'est ce qu'on porte la plupart...
Tout le synthétique.
Oui, c'est tout ce qui est synthétique.
Ouais, ça, on évite.
C'est ce qu'on porte pour la plupart d'entre nous, parce que c'est aussi ce qui est le moins cher souvent. Il y a certaines matières...
C'est de la soie, je crois. Je ne sais pas si c'est bien.
J'ai touché Mélanie Gomez pour savoir.
La soie, c'est un produit animal, du coup.
Ouais. Moi, vous n'aimez pas beaucoup.
Moi, je n'aime pas trop.
Allez, à poil.
Mais surtout, en France, on produit beaucoup de lin. Du chanvre aussi, on est producteur de lin de chanvre, donc et c'est des matières qui sont très naturelles. Après, il y a le coton biologique, mais ça demande beaucoup d'eau.
C'est pas très écologique.
C'est moins écologique, mais c'est mieux que le coton classique. Et encore une fois, ce qui va être le plus écolo, ça va être le seconde main, voire ne pas consommer inutilement.
D'accord, on a bien compris. Merci Julie Vernier. On va rester encore un peu ensemble, on a encore plein de questions pour vous. Et surtout nos auditeurs et auditrices en ont également des questions très pratiques. Vous allez leur répondre. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, c'est le moment. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou encore au 3921, notre répondeur.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On a enfilé nos costumes d'éco-citoyennes ce matin avec Mélanie Gomez. Oui. Et on tente de répondre à cette question. Une maison zéro déchet, est-ce que c'est possible? Pour nous guider dans cette voie, notre invitée, c'est vous, Julie Bernier, auteure du livre Zéro déchet, le manuel d'écologie quotidien chez Solar. Alors, on a cette question de Bruno qui vit près de Limoges sur la page Facebook de l'émission qui demande « Alors j'essaie à la maison de faire baisser ma consommation en électricité et en eau. Concernant la machine à laver, à quel degré faut-il laver son linge dans l'idéal? Et quel est l'intérêt du mode éco sur la machine? J'en ai un sur mon lave-vaisselle aussi, mais c'est un cycle qui dure 4 heures et donc il est très étonné. » quoi.
Ouais, peu d'intérêt le mode éco.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Globalement, moi, je préconise surtout de laver le plus froid possible, d'accord, en fonction des besoins. Évidemment, les draps d'un enfant qui a été malade, on les lave toujours à 90 degrés.
Bien sûr.
Plutôt les cycles courts. Moins on utilise des appareils, mieux c'est. Donc, cycle court et plutôt froid.
D'accord. Donc, le mode éco, en fait, ça ne sert pas à grand-chose, hein, finalement.
Je te conseille.
Ouais, c'est ça. Il y a aussi Anne-Laure qui nous a laissé un message au 3921, notre répondeur. Elle demande comment bien gérer ses déchets quand on vit dans un 15 mètres carrés à Paris. Le tri, je veux bien, mais je ne veux pas avoir 3 poubelles dans mon studio. Je ne peux pas. Sinon, je vis au milieu des poubelles. Avez-vous des conseils pour les mini-surfaces?
Eh bien, si on ne fait pas entrer le déchet dans la maison,
il n'y a pas besoin de poubelle.
Pas besoin de poubelle. Et après, sinon, petite précision, il y a des possibilités d'avoir un compost chez soi, même dans des petites surfaces.
Dans 15 mètres carrés, un compost.
C'est des tout petits lombricomposteurs, comme le monsieur le disait en début d'émission, avec des petits verres à compost qui vont venir manger les déchets. Ça prend pas plus de place qu'une poubelle.
Ouais, je viens d'une application perso en parlant de compost. J'en ai deux dans mon jardin, très grand, parce qu'on a des potagers partagés. C'est un jardin partagé. Sauf qu'on y met beaucoup depuis un an, on va dire, et il n'y a toujours pas d'engrais. Quoi. Ça, c'est long quand même à se. Ou alors on ne sait pas s'y prendre.
J'ai peur qu'il y ait un petit peu de ça, oui. Parce que normalement, au bout de 6 mois, on peut déjà utiliser le compost qui est. En dessous, en le prenant par le dessous.
Je regarde en dessous, ça n'a pas l'air très encore.
Je vous conseille de quand même le mettre dans les plantes. ça devrait mal, marcher. Ouais.
C'est pas gagné, Mélanie. Bon. il y a également Mohamed dans le 92 sur notre compte Instagram. Il dit que ses voisins ont installé un grand composteur, justement comme vous, Mélanie, dans leur jardin partagé. Mais il demande quel est l'intérêt et ce qu'il peut y mettre dedans.
Ce qu'il peut y mettre dedans, voilà. Tout ce qui est épluchure. En fait, tout ce qui n'est pas animal, donc on n'y met pas
de
les croûtes de
viande,
fromage,
de
les restes de viande,
plus,
de poisson, on n'y met pas les huiles.
On peut y mettre du carton, par contre, dedans.
On peut y mettre du carton, parce qu'en fait, c'est organique. Le carton, ça va se dégrader. Par contre, donc, toutes les épluchures, le carton, même le papier, à la limite, il faut juste bien le déchirer. Les petits restes de coquilles d'œufs, si on les broie bien. Et en fait, ça, c'est beaucoup, beaucoup de déchets.
D'accord.
Donc, il y a peu de choses qu'on ne peut pas mettre. Et en fait, on n'y met surtout pas de restes animaux aussi pour des raisons de, parce que ça peut attirer les rats, notamment.
On a bien
évité
ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a Martine au 3921. Qui dit si on a chez nous des animaux de compagnie. J'ai un chat, dit-elle. Comment réduire les déchets, notamment en ce qui concerne sa litière? Elle dit qu'elle jette tous les 3 jours dans sa poubelle noire. Poubelle noire, c'est bien ou pas, demande-t-elle.
Eh bien, on peut les composter, mais attention, c'est pas un compost qu'il faudra mettre dans le potager.
Ouais.
C'est très important parce que les chats peuvent être porteurs de bactéries qui se transmettent à l'humain. Et donc, ce compost-là, il faut déjà le faire composter 2 ans avant de l'utiliser. Et ensuite, on peut l'utiliser dans les massifs, pour nos plantes vertes.
Pas des choses qu'on va manger, quoi.
Pas des choses qu'on va manger.
Ouais,
exactement.
Mais pour les fleurs et tout ça, ça pose pas de problème.
Mais on peut le faire. Et par contre, plutôt privilégier une litière organique dans ce cas-là et pas minérale.
D'accord.
Naturel.
Alors, une question qui m'intéresse beaucoup, que pose Manon sur Twitter. Elle dit que je n'ai pas réussi à trouver d'alternative aux éponges classiques. Donc, on parle de ménage. Hein. Mmh. Auriez-vous une solution? J'ai entendu parler du tawashi. Pourriez-vous m'en dire plus? C'est quoi ça?
Oui, alors le tawashi, c'est une éponge qu'on fabrique avec des anciens vêtements, qu'on peut tous fabriquer à la maison. Après, sinon, il y a des brosses à vaisselle, dont on ne jette que le bout de la brosse. Et une partie est réutilisable, une autre est compostable.
Mais comment on fabrique un tawashi?
Comment on fabrique un tawashi?
Non, c'est compliqué.
Là, il faudrait que je puisse vous faire un petit dessin.
Mais en gros, c'est un assemblage de vêtements, c'est ça?
Alors, on fait beaucoup avec d'anciennes chaussettes.
Des tutos sur Internet.
C'est vraiment du tissage. Et effectivement, il y a beaucoup de tutos sur Internet. Et ça s'écrit donc T-A-W-A-S-H-I.
Et ça marche aussi bien qu'une éponge classique?
Ça marche aussi bien qu'une éponge classique. Mais pour ce qui est... comme une éponge classique, hein, pour ce qui est très gras ou ce qui est reste collé dans le fond de la casserole, on peut utiliser plutôt des brosses à vaisselle. Ou après, il y a plein de petites astuces, des coquilles d'œufs broyées, ça peut permettre de, de dégraisser le fond des casseroles, par exemple, ou de la cendre. Ça fonctionne très bien aussi.
Je vais vous présenter notre invité suivant, qui sera pour le dossier santé tout à l'heure, le professeur Olivier Schwartz de l'Institut Pasteur, qui justement nous disait en préparant l'émission que à Pasteur, c'est une des priorités pour les années à venir, recycler davantage tout ce qui est de déchets du coup médicaux liés à la santé, c'est ça ?
Tout à fait. Bon, il y a tous les déchets qui sortent de l'Institut Pasteur, bien sûr. On élimine les bactéries, on peut autoclaver pour enlever les virus. Mais le métier de la recherche est un métier qui consomme beaucoup de réactifs, de vaisselle. Et donc, on a mis en place un programme de recyclage pour diminuer, d'une part, nos consommations générales.
Et les massifs de fleurs à Pasteur sont magnifiques. Du coup, il y a des composts partout.
On parlait de jardins partagés, de potagers. On a mis en place un programme qui s'appelle les Jardins de Louis, d'ailleurs. Ah. Et donc, en ce moment, on mange les dernières tomates produites sur le site.
Incroyable.
On en a des petites et des très grosses, des cœurs de bœuf qui sont délicieuses.
Moi, j'ai pas eu ça cette année. Je me suis loupée aussi sur le potager.
Toute la France s'est loupée sur le potager à cause du temps.
Et du coup, trop de mildiou cette année.
Exactement.
Oh bon, mais merci beaucoup. C'était passionnant, Julie Bernier, d'avoir répondu à nos questions et à celles de nos auditeurs ce matin. Grâce à vous, ça y est, avec Mélanie et avec vous tous, on est prêtes. On a toutes les clés pour avoir une vie quotidienne qui produit moins de déchets. On va tenter d'appliquer vos conseils. De toute façon, nos enfants ne nous laissent pas le choix.
Très bien, merci Julia. On va changer de sujet, même si on va rester dans la solidarité. On va tenter de prendre désormais soin de notre santé, celle d'aujourd'hui et de demain. On passe donc à notre dossier santé du jour.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Et bien voilà, dans notre dossier ce matin, on va mettre un coup de projecteur sur une belle opération qui a démarré hier et qui se poursuit jusqu'au 11 octobre, le Pasteur Don, opération dont vous êtes l'une des marraines en plus, Mélanie.
Oui, j'ai cette chance, j'en suis très fière d'être la marraine d'Europe 1 pour le Pasteur Don cette année. Alors c'est la 15e édition de cette opération qui permet de mettre en lumière les travaux de recherche menés à l'Institut Pasteur et donc de récolter bien sûr des dons. Professeur Olivier Schwartz, on vous a entendu tout à l'heure, vous êtes directeur de l'unité virus et immunité à Pasteur. Et alors, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, il faut le dire, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour faire de grandes découvertes, vous avez besoin de toujours plus de moyens. Tout coûte cher.
Tout à fait. L'Institut Pasteur, c'est une organisation où il y a 2800 personnes qui travaillent sur le site, sans compter le réseau d'Institut Pasteur dans le monde. Il y a 130 unités de recherche et nous sommes une fondation de recherche d'utilité publique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas but lucratif, mais nous avons besoin de beaucoup d'argent pour financer nos travaux. On va en parler dans un instant. Et il y a environ un tiers de notre budget. On a un budget annuel de 330 millions d'euros environ. Eh bien, provient de la générosité du public, des legs, des interactions avec certains donateurs, des grands donateurs. Et le deuxième tiers, ce sont les contrats de recherche que nous pouvons générer et le soutien évidemment de l'État qui est important. Et enfin, nous avons nos propres revenus suite à des prises de brevets, par exemple, ou de contrats industriels. Donc, c'est cette diversité qui nous rend autonomes et indépendants dans nos activités de recherche.
Alors, j'en profite pour faire un petit rappel. Envoyez don, donc D-O-N, au 92-112 pour faire un don de 20 euros ou alors vous donnez ce que vous voulez sur pasteurdon.fr. Alors, professeur, justement, avec ces dons, est-ce qu'il est possible d'acheter quoi, par exemple ? Pas forcément des super microscopes, mais parfois, c'est des petits outils pour le quotidien des chercheurs, c'est bien ça ?
Ah ben, tout à fait. Tout don compte, parce que on se rend peut-être pas compte, mais si on veut faire pousser des bactéries pour les étudier, il faut des boîtes de pétri. Donc, ce sont des boîtes où on les ensemence et on les amplifie. Eh bien, un paquet de 50 boîtes, par exemple, peut coûter 100 euros.
Oui.
Une boîte de gants, on met des gants pour se protéger, ça coûte 25 euros. Alors évidemment, il y a des prix de plus en plus chers. Un microscope pour regarder dans un laboratoire les cellules pousser, ça peut coûter 3000 euros.
Ah oui.
Un microscope électronique qui permet d'aller encore plus précisément et de voir la structure précise des virus ou des bactéries ou des cellules cancéreuses, ça peut coûter 500 000 euros.
Donc tous les dons vont servir à toutes ces choses-là et encore bien d'autres.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Exactement.
On a 130 unités de recherche et on estime que le coût d'une unité par an de fonctionnement avec les salaires, etc., c'est 1 million d'euros.
Oula.
Donc, 130, vous en avez, ça fait 130, vous avez besoin de 130 millions d'euros ?
Ah ben, je vous dis, on dépense 330 millions d'euros par an.
Ah oui, d'accord.
Bon. Et donc, on a besoin du soutien de tout le monde.
Allez, on va rappeler que Pasteur, justement, c'est pas que des travaux sur les maladies infectieuses, parce que c'est vrai que dans la tête des gens, on a l'impression que c'est uniquement ça. Vos domaines de recherche, en réalité, ils vont bien au-delà. Quels sont les domaines, on va dire les grandes lignes, sur lesquelles vous travaillez, par exemple, en ce moment ?
Alors, on s'intéresse à la biologie fondamentale et la compréhension de tous les mécanismes cellulaires, moléculaires, en vue d'améliorer la santé publique. Donc, on travaille beaucoup, effectivement, sur les maladies infectieuses. On parlera peut-être de la COVID, des virus, des bactéries, des mécanismes de résistance aux antibiotiques. Mm-hmm. On s'intéresse également au cerveau, au fonctionnement du cerveau, à la croissance du cerveau,
aux maladies
neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson. On s'intéresse bien sûr également au cancer. D'une part, pourquoi une cellule normale se transforme, comment elle peut bouger dans l'organisme pour se métastaser, quels nouveaux traitements peut-on appliquer, comment le système immunitaire interagit avec les cellules cancéreuses, avec les microbes. Donc, et on a des programmes également. Maintenant, on investit beaucoup, depuis quelques années, dans l'intelligence artificielle, parce qu'on génère tellement de données dans tous les domaines, en génétique, en imagerie, qu'il faut des programmes et des algorithmes spécifiques pour les analyser, par exemple.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est Bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre vie quotidienne et là surtout en ce moment même de votre santé. En fait, le Pasteur Don ce matin, on a tous et toutes enfilé nos blouses pour rendre hommage à tous ces chercheurs qui sont plus motivés que jamais pour faire avancer la recherche. Mais pour cela, ils ont besoin de nous. Alors on détaille tout ça avec le professeur Olivier Schwartz. Vous êtes directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur. Alors cette année, le Pasteur Don, il était difficile de passer à côté de ce qui a fait l'actualité depuis près de 2 ans. La Covid-19, l'Institut Pasteur n'est pas parvenu encore à développer un vaccin, mais les recherches ont permis des avancées primordiales sur cette maladie. Lesquelles ? Expliquez-nous un petit peu.
Alors, dès le début de l'épidémie, nous nous sommes mobilisés et il y a eu plus de 400 chercheurs sur presque 2800 de l'Institut qui ont travaillé sur tous les aspects du coronavirus et de la Covid. Et donc, si on prend une échelle de taille, ça va du plus petit de l'atome, comprendre comment la particule virale se forme, comment la spicule qui est à la surface des virus permet au virus de rentrer dans la cellule, comment la cellule reçoit le virus, quels sont les changements, comment le virus se multiplie dans la cellule. Et si on dézoome un peu, c'est comment le système immunitaire voit les cellules infectées, pourquoi certains patients peuvent faire des formes graves et faire une hyperinflammation. Et si on dézoome encore plus, c'est comment le virus se propage d'un individu à l'autre, l'épidémiologie, la modélisation de l'infection. Et donc, c'est cette approche multi-échelle qui a servi de base donc, à nos recherches fondamentales, mais également, il y a tout un continuum de recherches appliquées, avec la mise au point de tests diagnostiques. C'est dans le CNR de l'Institut Pasteur qu'a été isolé le premier virus en Europe en janvier 2020. Dans notre propre labo, par mon propre laboratoire, on a isolé le variant Delta. On était une des premières équipes dans le monde à le faire sur un voyageur qui revenait d'Inde. Ça, c'était en avril et ça a été très important pour comprendre ce nouveau variant. On a mis au point donc, des tests diagnostiques. On a des traitements en cours de développement. On a des candidats vaccins qui sont toujours en développement et beaucoup d'interactions avec beaucoup d'instituts de recherche dans le monde et d'industries pharmaceutiques également.
Alors professeur, vos chercheurs ont notamment observé des similitudes entre la Covid et la grippe. Ça veut dire que ça va devenir un virus hivernal saisonnier et donc il va falloir refaire un vaccin chaque automne, c'est ça l'idée ?
Alors, il y a des similitudes, ce sont tous les deux des virus dits respiratoires qui se transmettent par voie aérienne. Il y a eu moins d'épidémies avec les virus de la grippe récemment, parce qu'avec tous les gestes barrières, et maintenant les virus de la grippe commencent à se propager. Ils donnent le même type d'infections qui peuvent être gravissimes. L'infection par le coronavirus est quand même plus grave. statistiquement que l'infection par les virus de la grippe. On peut se faire vacciner contre les deux en même temps.
Le même jour, il n'y a pas de problème.
Oui, ce n'est pas décommandé puisque ce sont deux virus différents. Donc, il y a certaines homologies. Et en termes de... Est-ce qu'il faudra se vacciner tous les ans? C'est un peu tôt pour le dire. Je parle du coronavirus puisque là, on est en train de réfléchir et d'implémenter les programmes de doses de rappel. Et donc, combien de temps l'immunité va durer après une dose de rappel et en face aux variants qui peuvent apparaître, c'est exactement l'objet de nos recherches.
Professeur Schwartz, est-ce qu'on peut dire tout de même que la pandémie a eu au moins ça de positif, qu'elle a permis d'accélérer la recherche, un grand bond dans la recherche grâce à la Covid? Certains parlent notamment que ça va ouvrir un champ incroyable dans la recherche contre le cancer. Est-ce que c'est vrai?
Oui. Toute recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée dans un domaine particulier, bénéficie à tous les autres domaines. Ben, on peut voir avec les vaccins à ARN messager qui ont été un bond fantastique. Eh bien, maintenant, il y a des essais cliniques prévus contre d'autres maladies, contre le cancer.
Ah bon?
Eh bien, contre le VIH, il y a un essai clinique avec l'ARN messager qui démarre aux États-Unis. Donc, ça va prendre beaucoup plus de temps que contre le coronavirus.
Parce que c'est un virus bien plus complexe.
Voilà,
hein,
c'est un virus plus compliqué qui rentre dans les cellules de façon stable.
Puis ça fait tellement d'années qu'on cherche.
Oui, ça fait beaucoup d'années. Donc, il y a des différences. Peut-être que ça ne va pas fonctionner. C'est trop tôt pour le dire. Mais tout ce qui... La connaissance, lorsqu'elle progresse dans un domaine, eh bien, ce sont des progrès pour tous les domaines de recherche.
Mais ça veut dire que si pour les cancers, on peut imaginer aussi qu'il y aura des vaccins pour guérir le cancer grâce à l'ARN messager?
Oui, alors il y a déjà des vaccins qui protègent contre certains cancers. Eh bien, ce sont les vaccins contre les virus qui causent des cancers. Par exemple, papillomavirus, hépatite B. Donc, il y a des vaccins. Donc, il y a déjà des vaccins contre certains cancers. Et d'ailleurs, les vaccins ARN ont été initialement développés contre certains types de cancers pour stimuler l'immunité.
D'accord.
Parce qu'on entend souvent dire oui, les vaccins, ils ont été développés très rapidement, en un an, ARN messager. Ce n'est pas vrai, puisqu'il y avait déjà 10 ans de travail sur les vaccins contre les cancers qui ont permis de faire ces progrès.
Bon, autre secteur de recherche, les chercheurs de Pasteur ont mis au point de nouvelles techniques d'opération de certains cerveaux, notamment dans le cerveau, via la réalité virtuelle. Expliquez-nous.
Alors oui, donc ça c'est un chercheur qui s'appelle Jean-Baptiste Masson qui a développé des techniques très intéressante. Vous savez que quand on fait des IRM de différents organes ou du cerveau, donc en fait, on a plein de couches, virtuelles. Eh bien, il a mis au point des techniques qui permettent de les empiler. Et donc, ça permet de reconstituer en 3D un cerveau, par exemple, ou un tissu. Et l'aide consiste pour les chirurgiens, par exemple, à enfiler ces casque de réalité virtuelle pour se balader littéralement dans l'organe qui va subir une intervention chirurgicale, par exemple. Et d'ailleurs, cette technique, il a pu l'appliquer également même au niveau de la cellule, puisqu'on a les mêmes techniques d'analyse microscopique des cellules. Et bien maintenant, grâce à ce système qui s'appelle DIVA, on peut voir à l'intérieur de la cellule le noyau, les centres de production de virus, par exemple, etc.
Bon, et toutes ces avancées, encore une fois, c'est notamment grâce à vos dons pour le Pasteur Don, n'hésitez pas.
Une autre maladie qui est vraiment très fréquente sur laquelle vous travaillez, c'est l'asthme, qui touche 10% de la population française. Et là aussi, parmi vos chercheurs à l'Institut Pasteur, il y a le développement d'un vaccin, c'est ça, contre l'asthme? On en est où?
Alors, donc là, on est en phase préliminaire. Effectivement, l'asthme touche environ 300 millions de personnes par an dans le monde et on estime qu'il y a au moins 250 000 décès. Donc, c'est une maladie hyper allergique. Et donc, c'est l'équipe de Pierre Brune, c'est de Laurent Rebel qui a mis au point ces techniques. Donc, maintenant, il y a des traitements, et on prend bien sûr des anti-inflammatoires, mais il y a des traitements plus spécifiques qui visent à bloquer ce qu'on appelle des cytokines inflammatoires.
Des biothérapies, c'est ça, des cytokines,
des cytokines de type 2. Bon, elle s'appelle l'IL-4, l'interleukine 4.
Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'étais très mauvais en bio.
Cette équipe, elle a mis au point des vaccins contre ces cytokines hyper-inflammatoires qui sont la cause de l'asthme.
Donc, c'est un vaccin qui cible ça, qui est l'une des causes de l'asthme. Et donc, en ciblant cette protéine, on peut imaginer ne plus avoir d'asthme du tout. On vaccinerait quoi? Des enfants dans des familles à risque?
Ça serait... Par exemple, alors, pour l'instant, on est au stade du candidat vaccin.
Donc chez la
et
souris,
on est en phase préclinique. Il n'y a pas encore eu, à ma connaissance, d'essais cliniques. Mais c'est l'étape indispensable de développement de nouveaux vaccins.
Mmh. Alors, il y a un autre domaine sur lequel vous travaillez à Pasteur et pour lequel vous avez besoin des dons, là aussi, du Pasteur Don. C'est la résistance aux antibiotiques. Et notamment, vous êtes en train peut-être de mettre au point les antibiotiques du futur. De quoi s'agit-il ?
La résistance aux antibiotiques est un problème majeur et d'ailleurs ça a été notre axe stratégique numéro 2 en 2018 lorsqu'on a établi le plan stratégique pour les 5 prochaines années. Et effectivement, c'est un problème très important puisque les bactéries deviennent de plus en plus résistantes du fait de l'utilisation massive d'antibiotiques. Donc on a des programmes pour comprendre, déjà au point de vue génétique, la circulation des bactéries résistantes pour pouvoir les identifier. Et on a également des programmes pour contrer cette antibiorésistance. Je pense par exemple à l'utilisation de ciseaux moléculaires et de nanorobots pour essayer de cibler avec ça s'appelle des phages, donc ce sont des virus qui vont infecter les bactéries pour pouvoir les éliminer. Et donc là, toutes les stratégies non conventionnelles sont mises en route et là encore, on est en phase préclinique, mais on espère pouvoir progresser rapidement.
Ça donne envie de donner tout ça. Hein,
merci beaucoup, professeur Schwartz, de nous avoir accompagnés ce matin à l'occasion du Pasteur Don, opération durant laquelle on fait bien sûr appel à la générosité de tous. Les chercheurs ont besoin de nous. Alors, je le rappelle, vous pouvez envoyer don par SMS au 92 112 pour faire un don de 20 euros ou alors donner ce que vous voulez sur pasteurdon.fr. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans la solidarité ce matin, j'en profite pour vous signaler que lundi prochain aura lieu le concert caritatif Leur Voix pour l'Espoir, présenté par notre collègue Laurie Choleva. Le but de ce concert est de récolter des fonds pour aider la recherche contre le cancer du pancréas, donc prenez note. Et donc c'est ce lundi 11 octobre, à 20h30 à l'Olympia. Il y aura Amir, Claudio Capéo, Oshi, Zaz Benabar, Gaëtan Roussel ou encore Gauvin Cers.
Eh bien c'est un beau programme.
Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission dédiée au bien-être et au mieux vivre. Et dans ce qui va suivre, on va être vraiment dans le convivial, dans le partage. On va vous parler de ces tendances qu'il faut absolument tester ou de ces magazines même qu'il faut lire pour vous faire tout simplement du bien.
Alors vous avez dit convivial et ça tombe bien. Tous les jours, on démarre par la chronique gastronomie de l'émission. Aujourd'hui, elle sera portée par vous, Margot Grossman. Vous êtes journaliste culinaire, diététicienne et vous allez nous parler d'un aliment peu connu, je crois, mais qui mérite de l'être. En quelques mots, de quoi on va parler ?
Alors oui, effectivement, bonjour à tous, hein, je suis ravie d'être là. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un super aliment que j'aime beaucoup, puisqu'il est sain, gourmand, détoxifiant, super léger et rapide à préparer.
C'est quoi ?
C'est le konjac.
Ah bah génial, j'adore. Moi, je connaissais déjà, mais Mélanie Gomez va découvrir. ensuite, ce sera à vous de jouer, hein, Sophie Braffman, bonjour. Je crois qu'on va fêter un anniversaire.
Oui, et moi, je mange du konjac parce que c'est très diététique. Et pour aller voir l'exposition qui célèbre le magazine Vogue, eh bien, c'est pas mal de manger du konjac.
Très bien. Et puis enfin, on terminera ce tour de table avec Philippine Darblay. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, Philippine ?
Je vais vous parler de compléments alimentaires parce que je ne comprenais rien jusque-là.
Voilà. Bon, très bien. Mais écoutez, vous allez nous éclaircir tout ça. Merci, on vous retrouve dans quelques minutes. On sera bien boosté avec toutes ces tendances, particulièrement aujourd'hui. Mais tout de suite, on va passer à table dans Bienfait pour vous.
Ah. Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Et bien voilà, on démarre donc la séquence tendance de ce magazine et c'est notre petite nouvelle qui va commencer, Margot Grossman. Gros plan avec vous donc sur le konjac. Alors, Kesako, expliquez-nous de quoi il s'agit.
Alors justement, donc comme je vous le disais, c'est un super aliment que j'adore, hein, puisqu'il est donc sain, gourmand, détoxifiant, super léger et rapide à préparer. Avec lui, en fait, on va pouvoir remplacer les pâtes et le riz sans aucun gluten et avec 10 fois moins de calories.
10 fois moins ?
10 fois moins.
Ah ouais.
Donc que des atouts et des bienfaits pour vous, pour ce konjac.
C'est bien. Alors, il dit 10 fois moins de calories, elle me regarde évidemment. D'où ça vient, Margot, le konjac ? Alors, j'avais jamais entendu ce nom-là, moi.
Alors, le konjac, c'est une racine qui, à la base, nous vient d'Asie du Sud et plus particulièrement du Japon, où on l'adore, en fait, depuis plus de 2000 ans pour ses vertus en cuisine, en cosmétique et même en médecine. Pour dire, c'est le secret minceur le mieux gardé des japonaises.
Enfin, Julia l'avait apparemment.
Moi, je l'avais, hein. C'est ça.
C'est génial.
C'est génial.
Je vous écoute, je suis suspendue à vos lèvres.
Alors, revenons à ses atouts, justement. D'abord, le konjac est ultra light. C'est l'un des aliments les moins caloriques au monde, avec seulement 5 calories au 100 grammes.
Ah oui, c'est impressionnant quand même. Hein.
C'est rien du tout, c'est 3 fois moins qu'un concombre. Hein, pour vous situer.
Déjà le concombre c'est light, mais alors là, c'est effectivement. Génial. Mais alors, ça doit être dégueulasse par contre.
Mais pas du tout.
Alors, non, c'est... Non, mais c'est pour ça que j'en ai jamais cuisiné. Mais
il faut savoir le cuisiner.
Ouais, j'entends pas savoir le cuisiner. Vous avez dit qu'il était aussi détoxifiant, c'est ça?
Oui, il est ultra détoxifiant puisqu'il va nettoyer l'intestin, absorber les graisses et les sucres, capturer les toxines et réduire le mauvais cholestérol comme l'hypertension.
Mais c'est génial.
Ouais, c'est pas mal.
Ah oui, et c'est aussi l'un des meilleurs alliés ventre plat et un excellent coupe-faim naturel hein, grâce aux fibres qu'il contient. C'est d'ailleurs l'aliment le plus riche en fibres qui soit, 64% quand même, à la différence des pâtes et du riz blanc classique.
Ouais. Coupe-faim, ça m'étonne pas, Sophie Braffman, que vous le connaissiez bien, vous, dans la mode. Hein,
j'aime
justement.
Le côté ventre plat, bon pour le transit aussi. Voilà. Vous voyez, c'est un peu, on est sur quelque chose d'assez glamour.
D'ailleurs, dans les défilés, elles ont tout ça, non, dans leur sac à main, du konjac des mannequins.
Non, elles rentrent le ventre, en fait.
C'est ça, le truc.
Je suis sûre qu'elles mangent du konjac, les mannequins. Parce que, en fait, quand vous mangez un peu de konjac, après, vous n'avez plus faim pendant au moins
10 jours.
10 jours.
Incroyable. Pas 10 jours.
Non, pas 10 jours, mais 10 heures. C'est incroyable. Mais où est-ce qu'on peut trouver ça?
Et bien alors justement, on va pouvoir le trouver en fait sous diverses formes, histoire de pouvoir varier. Et pour environ 3 euros, les 200 grammes, donc ça reste relativement raisonnable. Et on le trouve du côté des épiceries asiatiques, dans les magasins bio ou dans les supermarchés au rayon diététique.
Génial. Mais alors, super, mais Mélanie, là, elle n'en peut plus. Elle veut essayer le konjac, c'est quand même la seule qui ne l'a pas essayé dans ce studio. Et elle veut savoir comment on le cuisine. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite recette?
Bien sûr, bien sûr. Mais je voulais d'abord vous dire que moi, mon petit coup de cœur, en tout cas, c'est les shirataki. En fait, c'est des pâtes de konjac qui vont remplacer celles de blé ou de riz avec tout autant de déclinaisons de recettes qu'il en existe pour les pâtes classiques.
Sauf que Philippine Darblay, elle connaît le shirataki.
Non mais en fait, j'ai vu des paquets, mais j'avoue, je suis preneuse de conseils parce que je ne savais pas comment les cuisiner. Donc, mais je vois un peu à quoi ça ressemble, légèrement gluant d'aspect, c'est ça?
C'est un peu blanc. Ça. C'est un peu ça. En fait, c'est l'ingrédient vraiment parfait pour ce que je voulais vous proposer. Donc, un bon repas gourmand et réconfortant, 100% plaisir et 0% de culpabilité. Idéal en ce changement de saison et le froid qui commence un peu à s'installer.
Bon, allez, on passe à table. Dites-nous, Margot, comment on cuisine ce truc-là, cette racine donc.
Alors, je vous ai préparé un petit plat de pâtes aux crevettes.
J'aime bien ça.
Du lait de coco et des épices bienfaisantes pour voyager dans l'assiette.
Ça promet, là, déjà, c'est bien.
Ça va être prêt en 10 minutes.
Ça, c'est
il y a moins de 250 calories et c'est super simple à cuisiner.
Ah, bon, on dirait que c'est un truc impossible, là, ce que vous nous décrivez, c'est incroyable.
Où est-ce qu'on signe?
Ah ouais.
Bon, je vous donne les ingrédients pour une personne et vous avez juste à multiplier par le nombre d'invités.
D'accord,
j'en ai. Alors, on va d'abord réunir un demi oignon blanc, un demi poivron rouge, une petite racine de gingembre et de curcuma, 6-7 belles crevettes, 100 ml de lait de coco allégé, quelques feuilles de coriandre et notre paquet de shirataki de konjac. Hein, il faut compter environ 200 grammes par personne.
Bon, ça va.
Alors, pour la recette, rien de plus facile. Dans une sauteuse, un peu d'huile d'olive et on commence par faire dorer l'oignon et le poivron coupé en lamelles.
Ouais, ok, jusque-là, ça va bien.
Très simple.
On même Julia, elle suit, je crois.
Ouais, je vais le faire. Hein.
On va ajouter le gingembre et le curcuma que l'on aura préalablement haché. Et vous pouvez aussi utiliser des poudres, hein, si c'est plus simple pour vous, l'équivalent d'une cuillère à café. On mouille ensuite avec le lait de coco avant d'intégrer nos crevettes décortiquées, que vous pouvez d'ailleurs remplacer par des dés de tofu hein, pour une version végétale, ça c'est vous qui voyez.
Bien sûr.
Et c'est l'heure d'ajouter nos shirataki de konjac directement avec le reste des ingrédients et laisser mijoter 2 minutes. Comme vous le voyez, la cuisson est encore plus rapide que les pâtes de riz ou de blé, sans avoir besoin de les faire cuire à côté, ça me plaît beaucoup.
Ouais, c'est pas mal, c'est chouette.
Il n'y a plus qu'à assaisonner avec une petite pincée de sel, de poivre, éventuellement une pointe de piment et de la coriandre fraîche ciselée, et voilà, c'est prêt.
Franchement, ça a l'air trop bon. Du coup, c'est un produit qu'on peut cuisiner vraiment au quotidien, ça?
Mais oui, complètement. Comme je vous le disais, en fait, le konjac va s'adapter à toutes les préparations. Donc, si vous voulez varier, voici quelques options. Des tagliatelles de konjac avec de la crème allégée, de la nette et du saumon, frais ou fumé, par exemple.
Pas mal.
Ou des spaghettis de konjac aux tomates avec quelques olives, du parmesan, du basilic frais. Il existe aussi sous forme de riz, donc pourquoi pas l'utiliser en dessert pour un riz au lait, autre exemple.
C'est chouette.
Enfin, tout est possible et tellement bon.
D'accord.
D'ailleurs, si le konjac répond parfois au doux nom de langue du diable, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais moi, je le trouve plutôt divin. Enfin, je sais
c'est clair, hein, ça semble vraiment divinement bon, comme vous dites. Merci Margot Grossman. On peut retrouver d'autres recettes saines sur votre site internet, je crois.
Absolument. Amasauce.com.
Attendez, je note amasauce.com.
Philippine, ça vous tente, là, toutes ces petites recettes? Ça a l'air simplissime
en plus. Le truc, c'est qu'en plus, il est midi. On visualise toutes ces recettes.
Les crevettes, le lait de coco, les pâtes de konjac.
Mais pour résumer, moi, je dirais que le konjac, c'est la vie. Non, c'est pas ça. C'est que le Conjac, ça permet de se faire plaisir quand même, exactement, sans abuser. C'est bien,
c'est
résumé,
exactement,
ou pas
ça. Voilà.
Et on peut en plus l'agrémenter de différentes façons. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Margot, pour cette découverte ce midi. On va tenter, bien sûr, de reproduire tout ça dans nos cuisines très prochainement. C'est certain, mais restez avec nous. Je suis sûre que la suite de ce tour de table ne manquera pas de saveur. On va sortir les bougies, d'ailleurs, et peut-être même que Sophie Braffman nous a apporté un gâteau au Conjac, hein, qui sait, pour les 100 ans de Vogue magazine, dont on va parler dans un instant. Et puis, on fera un focus aussi avec Philippine Darblay sur les nouveaux compléments alimentaires. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre tour de table des tendances se poursuit. C'était vraiment très convivial instant. Hein. C'était sympa avec les conseils pour cuisiner le Conjac de Margot Grossman. Et justement, on a une question qui est tombée, Mélanie. Hein. Alors cette question.
Tout à fait, je la retrouve sur mon téléphone en fait, en gros, tout de suite. Alors c'est donc Papageno, on s'en fiche, hein, parce que peu importe, c'est un pseudo, qui demande: bonjour, j'ai entendu dire que le Conjac pouvait être dangereux pour la santé si trop consommé. C'est une question sur notre compte Instagram. Margot, c'est vrai, c'est dangereux éventuellement?
Alors dangereux, je dirais pas dangereux, mais c'est vrai qu'il faut pas non plus en abuser, parce que comme je vous disais, en fait, il va vraiment gonfler dans l'estomac.
Ah. Et, d'où l'effet coupe-faim.
Voilà, d'où l'effet coupe-faim, absolument. Donc en fait, moi, ce que je vous recommande, c'est de remplacer, par exemple, si vous voulez faire une cure vraiment pour perdre du poids, de remplacer un des trois repas par jour par du Conjac.
Voilà, mais pas
200
plus.
Grammes.
Voilà. 200 grammes, c'est bien.
Exactement.
D'accord. Eh bien, je vous propose qu'on reste dans la convivialité. Le Conjac, c'était sympa, on continue, puisqu'on va fêter un anniversaire, n'est-ce pas, Sophie Braffman? Ce n'est pas le vôtre, mais non. Où est le gâteau?
C'est un peu le mien quand même. Alors, bon, avant de parler de ces 100 ans du magazine Vogue, je voudrais quand même vous emmener au musée Galliera, parce que le musée Galliera a réouvert ses portes l'année dernière, après d'incroyables travaux, avec l'exposition dédiée à Chanel, Manifeste de mode, et surtout, surtout, si vous avez le temps d'y passer, non seulement le bâtiment est sublime, il y a un très joli parc, mais il y a la collection permanente qui a été installée cet été dans les sous-sols du musée. Elle présente une histoire de la mode du 18e siècle jusqu'à nos jours.
Et une histoire de la mode au travers de tenues emblématiques en plus.
Oui,
hein.
Alors des tenues très emblématiques, Mélanie. Alors il faut bien rappeler, hein, au XVIIIe siècle, c'était évidemment que les tenues des nobles qu'on retrouve, bien évidemment. Les autres, eh bien, la moyenne était en haillon ou en guenille. C'est ça. Alors c'est assez intéressant, par exemple, si vous voulez connaître l'intimité masculine au XVIIIe siècle, parce que ces messieurs portaient des peignoirs avec des soieries précieuses et bariolées dans leurs robes de chambre, des dessins de fleurs de prunier japonais pour symboliser le courage et la persévérance. J'imagine qu'on devait y amener un peu de vigueur aussi. Au XIXe siècle, le corps féminin se transforme. Alors avant, on avait la crinoline, mesdames. Il faut quand même, quand on voit ces tenues, vous rappeler. Ah oui, alors c'est cette espèce de jupon bouffant qu'on a en dessous. Donc forcément, le corps est quand même un peu brisé, brimé. Et alors, on lui substitue, c'est terrible, un pouf, puis ce qu'on nomme communément une queue d'écrevisse. Alors les femmes au 19e avaient une sorte de carapace articulée placée à l'arrière sous la taille. Donc ça correspondait à l'époque au canon de beauté. Mais je ne sais pas si vous imaginez l'inconfort de la tenue. Donc c'est quand même assez intéressant de voir tout ça. Donc il y a des tas de trésors, des tenues de Paul Poiret aux accessoires de mode sous l'occupation.
Tout ça c'est à Paris évidemment.
Tout ça c'est à Paris. Mais voilà, si vous faites un tour par Paris, vraiment,
n'hésitez pas
à y aller parce que c'est absolument somptueux.
Alors la collection permanente aussi, donc c'est super intéressant. Mais le lieu, il est magnifique, non? C'est hyper beau.
Oh là là, Julia, c'est l'un des 14 musées appartenant à la ville de Paris. Je ne sais pas trop bien faire la voix de Stéphane Bern, j'aimerais
non,
tellement...
Non, on vous a reconnu. Hein.
Alors, c'est un musée situé dans l'ancien palais muséal de la Duchesse de Galliera, édifié entre 1878 et 1894. J'adore, c'est vraiment la promesse d'une très belle soirée. Bon, alors, je ne vous expliquerai pas tout. Hein. La Duchesse de Galliera, évidemment, elle était très riche, elle était magnifique. Le mari meurt, elle a de l'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, il y a plein de rebondissements, il y a sûrement plein de coucheries aussi. Mais on fera un autre dossier là-dessus, je sais, Julia. Que vous aimez ça.
J'adore.
Et donc, ça devient...
Ah oui, une chronique mode et coucherie, ça pourrait être pas mal.
Ça pourrait être... Vous savez quoi, Mélanie? Je note tout de suite les coucheries dans la mode. Ça sera un de nos prochains sujets. Donc, vous avez compris que ce palais est un lieu emblématique avec une collection absolument incroyable. Et là, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est célébrer ces 100 ans du Vogue 1920-2020. Une collection entièrement dédiée au magazine Vogue.
Et donc, toute l'exposition est dédiée au magazine et aux photographes et rédacteurs célèbres qui ont travaillé pour lui. Hein, c'est
alors,
ça.
Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que le magazine, Julia, est enflammé. Philippine aussi, elles font décorer. Madonna est dans la place.
Voilà,
c'est parti.
Vous pouvez les voir sur europe1.fr.
Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, on remet le magazine au cœur du sujet. Alors au début, vous rentrez dans une rotonde avec un mur de magazine. Savez-vous quelles sont les femmes qui ont fait le plus de couvertures de Vogue?
Kate Moss, non ?
Ah bah bravo, alors évidemment, il y a Kate Moss qui en a fait 21 de 1994 à 2019. Mais la française emblématique, qui est d'ailleurs en couverture de l'exposition, c'est Catherine Deneuve, qui en a fait 16 pas de mal. 1962 à 2003. Alors ce que j'ai trouvé super intéressant dans cette expo, c'est qu'elle relie la petite histoire, celle du magazine Vogue, au travers de la grande histoire. Donc on voit d'abord, on commence avec les années 20, ensuite le magazine va s'arrêter pendant la guerre. On continue après l'occupation, on voit l'avènement de Dior, parce qu'en fait c'est un magazine qui a lancé aussi les plus grands couturiers. Et c'est là où il a créé ce fameux tailleur bar, parce qu'il fallait montrer énormément d'opulence. On est après la guerre, les gens ont souffert, donc on a envie de montrer une mode différente. On voit les photographes aussi, le règne des grands photographes de mode dans les années 80-90. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit aussi des photos qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Alors, j'imagine, il y a toute cette tendance un peu où on photographie des Lolitas. Hein, c'est presque un peu tendancieux à des moments donnés. La mode se permettait un certain nombre de choses. Et toute l'époque aussi, dans les années 2000, de Mario Testino, on est dans les années 90, où on voit une femme nue, la taille ceinturée, buvant du Chanel numéro 5. Clairement, cette photo postée aujourd'hui sur Insta, on vous la dégage. Hein, parce qu'en fait, elle est... On voit les tétons, on voit tout. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de retrouver, en fait, cet ensemble de la mode au travers de grands photographes et de comprendre quelle a été son histoire. C'est presque une expo qu'on peut faire en famille, je trouve.
C'est passionnant. Merci beaucoup. Voit des stars. Merci, Sophie Braffman, d'ailleurs. Merci. Et demain, émission spéciale d'Historiquement Vôtre de Stéphane Bern et Mathieu Noël pour les 100 ans du magazine Vogue Paris, qui a sorti pour l'occasion un numéro collector, donc en partenariat avec Europe 1. Ah oui, on a très bon goût ici et oui, en kiosque, donc depuis le 28 septembre. Sophie, on vous retrouve la semaine prochaine. Non, bien fait pour vous, mais d'ailleurs, quel est votre secret, Sophie ? Vous avez toujours la pêche. Moi, je suis sûre que vous prenez des compléments alimentaires.
Oh là là, et eh ben c'est ça, c'est les compléments alimentaires de Philippe.
C'est une transition, c'est incroyable.
Mais une transition est inouïe, parce que figurez-vous qu'il se trouve qu'aujourd'hui même, Philippine Darblay va nous parler de compléments alimentaires.
Moi, j'adore ces coïncidences, vraiment. Non, et ça, petite note, moi, c'est un de mes musées préférés, le musée Galliera. C'est magique. Hein.
Ouais,
c'est...
L'endroit est magnifique. On a envie d'y vivre.
Franchement,
avec la
le musée Galliera avec un plat de pâte congelée. Jacques, et quelques compléments alimentaires.
Je suis pas sûre qu'on vous laisse entrer comme ça.
On est bien aujourd'hui,
c'est
ça.
Mais alors, expliquez-nous déjà, c'est quoi des compléments alimentaires ? Ce ne sont pas des médicaments, hein, mais on peut dire que c'est des aides, quelque part.
Exactement. Bah, en fait, je me suis posé la question, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, puisque j'ai toujours trouvé ça un peu confus, ce monde. Le site du gouvernement nous explique, ce sont donc des denrées alimentaires dont le but est de compléter un régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments. Bon, tout ça pour dire... C'est en effet quelque chose qui vous aide, mais qui ne règle pas un problème. Mmh. Alors, on en a vu sous plusieurs formes, comprimés, ampoules, pastilles. Et le but est vraiment de cibler des carences ou des déficits.
Mais si vous mangez équilibré, vous n'en avez pas besoin. Donc, ouais. Si vous écoutez les conseils de Margot Grossman,
voilà,
c'est vrai. Bon,
ça vient
en
plus.
On est complémentaires.
Voilà. Exactement, c'est la petite cerise sur le gâteau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les compléments sont adulés par toutes les personnalités. Gwyneth Paltrow, par exemple, la reine de la beauté durable, prend quotidiennement de la vitamine D. La chanteuse Katy Perry a posté une drôle de photo sur Twitter où vraiment elle tient un énorme sac de gélules devant sa tête. Bon, c'est un petit peu étrange, mais au moins ça prouve que c'est important pour elle. Et Jennifer Aniston complète son régime avec de l'huile de poisson.
Finalement, on revient donc à de bonnes vieilles recettes d'antan, c'est ça.
Là, je crois que vous l'aurez compris, ça arrive dans à peu près tous nos métiers autour de la table. Il y a vraiment un retour aux recettes qui marchent, celles d'avant. Et c'est sûr, j'aurais dû écouter ma grand-mère fervente ambassadrice de l'huile de foie de morue.
Pas bon.
Malgré tout ça, j'avoue que d'un point de vue purement personnel, ayant évolué dans l'univers de la cuisine, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange, les compliments. Déjà, ils me font peur. L'idée de prendre une gélule alors qu'on parle d'alimentation, moi, je trouve ça un peu antinomique. Voilà. Encore une fois, c'est personnel. Après, je trouve ça compliqué. C'est vrai que c'est compliqué déjà de bien se nourrir. Hein. Margot nous l'explique aujourd'hui. Il faut vraiment faire attention à pas mal de choses. Alors, compléter avec des ampoules et des sachets, des choses un peu étranges, je trouve pas ça évident. Mmh. Et bien, justement, aujourd'hui, il y a plein de nouvelles marques qui répondent à ces blocages. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de nouvelles marques françaises.
Ah, génial. Alors, lesquelles ?
Alors, la première s'appelle D+ For Care, qui est une marque qui nous déculpabilise. La marque propose, par exemple, une petite cure anti-gueule de bois.
Ah ouais, j'ai déjà vu ça.
Ouais, c'est assez marrant. Ils expliquent simplement profiter de la fête, récupérer, recommencer. le vrai plus de cette marque, c'est de proposer des compléments sous forme de sachets à boire. Donc, il n'y a même plus besoin d'eau.
Ouais, et puis sinon, buvez pas trop aussi, ça peut aider. Hein, c'est un verre par jour et deux verres par jour. jours et pas tous les jours, n'oubliez pas, bien sûr. Hein.
Il reste vraiment dans la modération, mais c'est vrai, ça peut aussi vous dire, dans les moments un peu de dérapage ou des moments où on a besoin aussi de lâcher prise.
Pour se remettre sur le droit chemin.
On peut exactement trouver des solutions. Et c'est vrai que la fondatrice Claire, elle, souhaitait trouver une solution non seulement efficace, mais aussi pratique. Mmh. Ensuite, il y a des marques assez marrantes, comme les Miraculeux ou Elementary, qui rendent les compléments amusants, bah oui, parce qu'ils sont sous forme de bonbons.
Attendez, bonbons, ça veut dire sucre, ça?
Bah oui, effectivement, c'est vrai.
Vous y connaissez un rayon en sucre.
Oui, on ne la fait pas.
C'est vrai qu'ils sont sous forme de... Il y a un peu de sucre, en effet. Après, c'est à nouveau, c'est un point de vue personnel. Je trouve que ça rend quand même la prise quotidienne plus amusante. Et surtout, ça permet d'aller au bout d'une cure sans se lasser. Parce que faire ça tous les jours, non-stop, il y a un moment où en fait, on en a un peu marre. Et apparemment, Madonna en prend la vitamine B.
Oh, si Madonna en prend
Mais je crois qu'elle ne prend pas que ça.
Bravo. J'adore cette thématique qui nous suit aujourd'hui. Et enfin, je voudrais vous parler d'Épicure, qui est une marque qui nous fait rire. Alors, elles, ils ont des packaging, par exemple, Strong Hair, Don't Care, qui veut dire donc les cheveux forts et je m'en fiche, ou Poudre à canon qui favorise le drainage, donc sous-entendu canon de beauté, quoi. Et la recette de cette marque, d'ailleurs, comme toutes ces nouvelles marques qui sont en train d'émerger, c'est toujours la même chose. Un, cibler des objectifs simples, stress, poids, beauté, sommeil. Deux, avec des ingrédients naturels clairs et limités. Trois, de préférence, avec des modes d'administration faciles. Et quatre, surtout, surtout, de jolis packaging.
Bon, en conclusion, Philippine, oui, ce sont de super plus, mais ça ne règle pas les problèmes de fond, on est d'accord.
On est tout à fait d'accord, et ça, le docteur Naidoo, qui est psychiatre nutritionnel, le réexplique. Au même titre qu'il est inutile de faire du sport, et c'est ce que vous disiez, quand on a une mauvaise alimentation, il est inutile de prendre des compléments si on se nourrit mal. Alors, sur ce... Cicéron, quand même, on va finir sur une note
de sagesse.
Et de sagesse nous dit justement, la sagesse est la santé de l'âme. Donc renseignez-vous auprès de votre pharmacien, médecin ou expert. Soyez sage et surtout, voilà, travaillez sur vous.
Et portez-vous bien et mangez bien, surtout de façon équilibrée. C'est quand même la meilleure des solutions pour être en bonne santé. Merci beaucoup, Philippine. Merci à toutes les trois pour ces bons plans, ces conseils culinaires ou modes qui nous font tant de bien à chaque fois. On vous retrouve très bientôt dans l'émission. Voilà, bien fait pour vous, touche à sa fin. Ça y est, mais on sera de retour demain, dès 11h, bien évidemment. Et Julia, demain, on parlera de quoi?
Alors, Mélanie, demain, on va démarrer l'émission avec notre question du jour habituelle. Et la question de demain, la voici, la voilà. Quels sont les secret prouvé et approuvé pour bien vieillir. Mais attention, on parlera du bien vieillir sans trop se priver non plus. Il y aura beaucoup de plaisir au programme, y compris les plaisirs de la table.
Ça va, ça va.
Oui,
tout va bien.
Comme ça, on va pouvoir finir comme des beaux centenaires, Mélanie. C'est tout le mal que je nous souhaite. Et on vous donnera bien sûr le mode d'emploi.
Bon, et demain, Julia, il y aura de nouveaux sujets tendances de la santé. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.